Bonjour Bruno Gabellieri.
Bonjour Anne-Rose.
Bruno Gabellieri, vous êtes le délégué pour l'œuvre d'Orient dans le diocèse de Tarbes et Lourdes et vous allez nous aider aujourd'hui à décortiquer un petit peu ce qui se passe au Moyen-Orient et en Terre Sainte, à y voir un peu plus clair. En tous les cas, vous allez nous donner des clés de lecture et de compréhension parce que vu depuis chez nous, c'est un peu compliqué et de fait, hein, tout est un petit peu lié et relié dans ce conflit. On va essayer de comprendre déjà le cadre géopolitique. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on décortique un mot, un nom qu'on entend tous les jours, dans tous les journaux, dans tous les médias, c'est le Hezbollah, dont on apprend, dont on découvre peut-être, en tous les cas, dont on entend chaque jour que eh bien, le Hezbollah se trouve au Liban et que ça, c'est un petit peu le nœud du problème. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Hezbollah? Est-ce que vous pouvez le définir?
Alors, le Hezbollah est difficile à définir et c'est pour ça que c'est une opération à la fois de communication et une opération politique et militaire. Le Hezbollah, aujourd'hui, c'est une force politique au Liban, une force politique légitime dans le débat démocratique libanais. Ils ont des députés au Parlement libanais, ils ont même des ministres. Ils ont fait partie de coalitions gouvernementales déjà avec le général Aoun il y a quelques années.
Donc c'est une étiquette politique.
Oui, c'est une étiquette politique, le Hezbollah, mais c'est aussi un mouvement religieux. Et le mouvement religieux, c'est le déguisement, je dirais, tout à fait honorable, en apparence, d'une opération politique qui vise à déstabiliser plus Israël que le Liban. Parce que l'ennemi du Hezbollah, numéro un, c'est le peuple et c'est l'État d'Israël. Et pour cela, il faut comprendre d'où vient le Hezbollah. Le Hezbollah est armé, financé par l'Iran depuis l'origine, comme l'Iran a financé et finance le Hamas, aussi bien en Syrie qu'à Gaza. Donc,
Parce que le Hezbollah est étendu un peu partout, là.
Alors, le Hezbollah, en tant que tel, comme entité identifiée, n'est que au Liban. Mais la version, je dirais, cisjordanienne, c'est le Hamas. Et la vision, je dirais, de l'Iran, c'est d'avoir des émissaires armés dans ces pays pour déstabiliser Israël et pour éliminer Israël de la carte politique, puisqu'il ne faut jamais oublier que le but du régime iranien, c'est l'élimination d'Israël, carrément. Donc, le Hezbollah est ce bras armé au Liban.
Et pourquoi le Hezbollah est installé au Liban? Pourquoi c'est l'endroit le plus stratégique pour le Hezbollah?
Alors, le Hezbollah, dans sa stratégie, a une, je dirais, vision extrêmement efficace. Ils se sont installés au Liban Sud, qui est la frontière nord d'Israël, pour pouvoir effectivement harceler le territoire israélien par leurs fameux missiles, les missiles qui sont fournis par l'Iran et qui partent du sud Liban régulièrement, alors que on croyait qu'en 2024, l'armée israélienne avait réussi à assainir la situation au sud du Liban. Ils le croyaient tous, les Libanais peut-être un peu moins, parce qu'ils savaient bien que le Hezbollah était implanté en profondeur dans les villages chrétiens du sud du Liban. C'est la technique du Hezbollah, c'est d'être présent dans la population civile de manière invisible, mais suffisamment fort pour pouvoir y entreposer des armes et pour pouvoir y avoir des bases de missiles qui, je dirais, tombent sur Israël.
Donc ça fait des années que le Hezbollah s'est immiscé. Combien d'années?
Je dirais que ça fait une dizaine d'années que l'Iran a compris que pour harceler Israël de manière efficace, le Liban, qui était une terre d'accueil pour tous les réfugiés de la région, les Palestiniens, les Syriens, les Irakiens récemment, tous seront réfugiés au Liban, qui est effectivement avec une tradition d'hospitalité très forte, car le modèle culturel libanais, c'est effectivement la coexistence pacifique depuis des années, voire des siècles, entre chrétiens et musulmans, il faut le reconnaître, et cette faculté des Libanais d'accueillir et de pouvoir travailler avec une mixité sociale et culturelle dans un pays en paix, parce que le Liban n'a pas toujours été en guerre, fort heureusement pour eux, eh bien le Liban est forcément trop accessible pour tous les réfugiés.
Donc ces réfugiés ont été accueillis par les chrétiens du Liban comme des frères musulmans et ils sont devenus des ennemis du Hezbollah.
Et voilà. Exactement.
Incrusté dans la vie de tous les jours.
Exactement. Il faut savoir aussi que lorsque les Palestiniens ont été, je dirais, évacués par les colons en Israël, le refuge, ça n'a pas été la Jordanie. La Jordanie leur a interdit l'accès au territoire. Ça n'a pas été l'Égypte. L'Égypte leur a interdit l'accès au territoire. Ça n'a pas été la Syrie non plus. Ça n'a pas été l'Irak. Ils sont tous partis au Liban. Et finalement, le Liban le plus accessible, c'était le Liban Sud. Donc le Liban Sud, c'est une terre, je dirais, multiple, où vous avez énormément de réfugiés palestiniens. La cible idéale pour les Iraniens qui, évidemment, exploitent le sentiment anti-israélien des Palestiniens qui ont été...
Donc, ils cherchent à recruter ici.
Ils recrutent inévitablement dans les Palestiniens. Les Palestiniens ne sont pas tous chrétiens, tant s'en faut. Il y a des Palestiniens, évidemment, musulmans. C'est vers eux que le Hezbollah s'est tourné pour recruter des milices qui sont tantôt... identifiable, tantôt pas du tout identifiable. Et c'est ça la difficulté pour Israël.
Que font les chrétiens aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, les chrétiens, la seule solution qui est pratiquée, c'est rester au sud du Liban, mourir. C'est très clair. Si vous allez sur les radios, sur les télévisions du monde entier, on interviewe des chrétiens qui disent « Nous, on n'a plus du tout d'espoir. En 2024, on est parti. Quand on est revenu, on n'avait plus de maison ou notre maison était occupée. Donc aujourd'hui, on a décidé de rester, même si c'est pour mourir. » Donc ça, c'est, je dirais, terrible à entendre, mais c'est la réalité vécue par les Libanais du Sud, Liban. Et puis les autres, ceux qui gardent un espoir de survie, vivre, eh bien, ils montent vers Beyrouth, ils montent vers le nord du Liban, où là, ils peuvent espérer retrouver la paix. Mais aujourd'hui...
Vous croyez, vous, qu'ils peuvent retrouver la paix à Beyrouth ?
Je dirais que ça a été le calcul de ceux qui se sont réfugiés au nord Liban, d'Irak et de Syrie. Aujourd'hui, avec les bombardements israéliens sur le Liban, on voit un mouvement inverse, c'est-à-dire que des réfugiés de Syrie qui reviennent en Syrie du Liban.
Finalement, ils sont plus en sécurité en Syrie, ce qui paraît dingue.
Aujourd'hui, ils sont plus en sécurité en Syrie. Et alors, je n'ai pas d'informations sur l'Irak, mais on peut imaginer que, puisque l'Irak échappe pour l'instant à la guerre, peut-être que des réfugiés de l'Irak qui sont allés au Liban sont en train de retourner en Irak. Je n'ai pas d'informations là-dessus. On est plus concentré à l'œuvre d'Orient sur ce qui se passe au sud du Liban aujourd'hui, je l'avoue. Mais aujourd'hui, le Liban est en crise politique, économique, sociale, c'est terrible.
Qui aide le Liban ? Qui aide les Libanais ? Quand je pose cette question-là, peut-être qu'on peut me répondre en bombardant pour en finir avec le Hezbollah caché au Liban. C'est comme ça qu'on soutient et qu'on aide le Liban et les Libanais. Mais moi, je parle de la vie de tous les jours aujourd'hui, là, sous les bombardements. Comment on aide ? Qui aide le Liban et les Libanais ?
Alors, le Liban compte d'abord sur sa diaspora libanaise à l'international.
Qui est importante.
La chance du Liban, c'est que les Libanais qui sont partis aux États-Unis, en Australie, en Amérique du Sud, etc., ils ont un sens du commerce fantastique, ils ont un sens de l'entreprise fantastique. Oui. Ils se sont développés et ils se sont enrichis par leur travail. C'est eux qui financent le Liban aujourd'hui, c'est clair, clair et net. Mais il y a deux pays qui sont traditionnellement des alliés du Liban État. C'est évidemment la France, compte tenu de son engagement historique depuis des siècles. C'est aussi les États-Unis qui ne peuvent pas laisser le Liban non plus accumuler toute la misère du monde. Donc deux grands pays, c'est la France et les États-Unis aujourd'hui, l'Angleterre beaucoup moins.
Pardon Bruno Gabellieri, après on va marquer une petite pause, mais vous nous dites la France et les États-Unis pour aider le Liban. On a du mal à percevoir aujourd'hui que le Liban est aidé, même par la France et les États-Unis.
Nous ici, à Lourdes, on peut en parler, je dirais, de manière très concrète. Le premier régiment de hussards parachutistes, c'est le régiment français qui, aujourd'hui, sous le drapeau des Nations Unies, avec la FINUL, est la force d'interposition de paix entre Israël et les armées libanaises au nord, mais aussi les belligérants sur le terrain, donc le Hezbollah. La difficulté pour le premier RHP, avec son contingent fort de, je crois, à peu près 700 hommes, c'est de ne pas répondre par les armes à des agressions qui ne vont pas manquer de leur tomber dessus.
Du coup, ils ont quelle latitude pour
c'est
travailler ?
C'est une force de paix internationale sous mandat des Nations Unies. Ils ont, je dirais, comme première mission, protéger les populations. Je les les ai vus visuellement accompagner le convoi humanitaire de l'œuvre d'Orient lors des obsèques du prêtre libanais qui a été tué au sud Liban la semaine dernière. Mmh. Et effectivement, on a vu avec le nonce apostolique du Vatican qui était dans ce convoi humanitaire, on a vu les responsables de l'œuvre d'Orient locaux accompagnés de la finule, des casques bleus pour les protéger.
Donc il faut travailler pour la paix à défaut de pouvoir combattre entre guillemets la guerre.
Exactement, c'est une mission extrêmement difficile pour les soldats français, mais ils le font avec l'ordre express venu de notre gouvernement.
On marque une petite pause, Bruno Gabellieri, on vous retrouve dans un instant. Voilà, nous poursuivons notre entretien avec Bruno Gabellieri, délégué pour l'œuvre d'Orient dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Donc avec vous, Bruno, nous essayons de comprendre ce qui se passe. Alors on a beaucoup parlé du Liban, mais on essaie de comprendre ce qui se passe dans tout le Moyen-Orient. Dans tout ça, il y a des déplacés, de nombreux déplacés, on l'a bien compris. Vous me parliez avant l'émission de 600 000 déplacés.
Rien qu'au Liban.
Rien qu'au Liban.
Sud vers le nord.
Du sud vers le nord. Et est-ce qu'ils ont où aller quand ils partent? Est-ce qu'ils savent où aller?
Alors, les seules structures dans lesquelles ils peuvent trouver un abri, c'est toujours les communautés chrétiennes, les congrégations, les couvents, les églises et tout ce que ces églises ont pu générer comme structures scolaires, périscolaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Liban, il n'y a plus d'école. On est en guerre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut survivre. C'est ça la seule règle de vie. Et donc, aujourd'hui, tout est fait pour faire que l'accueil des réfugiés soit la priorité numéro un. Et nous, ce que nous avons comme charge en tant qu'œuvre d'Orient, c'est d'aider ces populations déplacées, ces réfugiés, c'est la mission essentielle de l'œuvre d'Orient, leur venir en aide par, effectivement, la livraison de nourriture, la livraison de médicaments, la livraison de ce qui permet de vivre à la fois le gîte et le couvert.
Et ça, vous n'êtes pas empêché par cette action humanitaire?
Alors, c'est compliqué. Je ne peux pas vous dire que ce ne soit pas compliqué. J'ai vu des reportages où les bombes tombent pas loin. Mmh. Et donc, la dernière visioconférence que nous avons faite avec le directeur de l'œuvre d'Orient sur place, Vincent Gélot, il était dans sa voiture. Il ne savait pas très bien s'il n'allait pas recevoir, effectivement, un projectile sur sa voiture. Donc, aujourd'hui, ce que fait l'œuvre d'Orient, c'est tout à fait héroïque dans les territoires, je dirais, zones de combat. Il faut prendre des risques, ils les prennent, mais on essaye aussi de les protéger. C'est-à-dire que tous nos volontaires qui ne supportent pas, je dirais, la pression et la guerre, on les a rapatriés, bien évidemment. Ne reste que ceux qui sont volontaires.
Est-ce qu'on peut regarder ce qui se passe dans les pays autour du Liban, puisque le Liban n'est pas seul, bien sûr. Dans cette guerre. On peut parler de l'Iran, d'Israël, évidemment. De la Jordanie, de la Cisjordanie.
Évidemment.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on comprenne un petit peu quels sont les affrontements, puis quelles sont les alliances ou les alliances possibles ou potentielles?
Oui, alors la grosse difficulté quand on parle du Liban, c'est que bien évidemment le Liban est au milieu de la zone de conflit du Moyen-Orient. Les grands blocs, on les connaît. C'est l'Iran qui veut évidemment la destruction d'Israël. Ça, c'est le but, je dirais, affiché, officiel. Ils ont la poursuite de la recherche de la bombe atomique dans ce seul objectif. Et je dirais que le seul pays qui est capable de les arrêter aujourd'hui, derrière Israël, c'est les États-Unis. Et ce que l'on a vu, c'est effectivement le déclenchement par le président des États-Unis de la guerre contre l'Iran pour couper à la fois l'armement, évidemment, du Hezbollah, mais ça, c'est la petite conséquence de la stature qu'a prise l'Iran aujourd'hui. Mais l'Iran, aujourd'hui, il est allié avec qui? Avec la Russie. Il est allié objectivement avec la Corée du Nord. Il est allié objectivement avec la Chine. Donc, c'est pas l'Iran tout seul. Et aujourd'hui, quand on sait que le Hezbollah est financé essentiellement par le trafic de drogue, on est obligé de relier ce qui s'est passé au Venezuela avec l'opération Chavez, parce que tout est lié. Et le narcotrafic, il est transcontinental.
Donc derrière tout ça,
ah oui,
derrière
tout
ça, c'est le narcotrafic.
Il y a le financement de l'armement et de la guerre, parce que, comme tout le monde le sait, la guerre coûte cher. Et aujourd'hui, la guerre coûte tellement cher que l'opération américaine, je dirais, dans le détroit d'Ormuz et tout autour, eh bien, elle patine tout simplement faute de moyens. Parce qu'aujourd'hui, un conflit comme celui-là consomme énormément de ressources, Et aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais l'armée de l'air française est au bout du stock de ses missiles et donc va bientôt plus pouvoir aider les Américains dans leur frappe, je dirais, sur les cibles militaires en Iran. C'est des éléments, je dirais, prosaïques, mais qui montrent bien que la guerre ne peut pas être illimitée. Elle a forcément des limites.
Mais ce qui est terrible, c'est que vous nous dites, Bruno Gabellieri, qu'en fait, finalement, la guerre s'arrêtera quand on n'aura plus d'armes et que tant qu'on est capable d'en avoir et d'en fabriquer, bah, allons-y.
C'est la tristesse que l'on peut avoir, effectivement. Et moi, je suis obligé de faire le parallèle avec ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, on est bloqué depuis 4 ans dans une opération de guerre qui n'en finit pas. On n'arrive pas à surmonter, je dirais, les résistances et on n'arrive pas à entamer des négociations de paix parce que l'industrie d'armement, est derrière. On l'a fait tourner, mais aujourd'hui, on sent bien que c'est plus l'Ukraine la priorité. La priorité, c'est effectivement le Moyen-Orient. Et ceux qui financent, l'ensemble des guerres, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui sont à la commande de l'industrie d'armement. Et l'industrie d'armement, ben, il faut effectivement l'alimenter. Aujourd'hui...
Il y a des pays qui sont capables de continuer à alimenter leur capacité d'armement. Donc on ne joue pas à armes égales, si
non,
je puis me permettre.
Non, c'est clair. Et aujourd'hui, il faut reconnaître, je pense que a été sous-estimée la capacité de l'Iran... avec son stock de missiles, parce qu'aujourd'hui, ils continuent d'envoyer des missiles. Ils en ont combien ? Je suis incapable de le dire, mais force est de constater que ça continue.
Personne n'avait anticipé ou pu anticiper la capacité d'armement de l'Iran ?
Probablement pas assez.
Comment ça se fait ?
Probablement pas assez, mais vous savez... Moi, je me souviens, quand les Russes ont attaqué l'Ukraine, ils ont dit ça va être Kiev en 8 jours. Oui. On l'a vu, ça n'a pas été Kiev en 8 jours. On y est depuis 4 ans. Le président Trump avait dit l'Iran, je liquide l'Iran en 15 jours. On n'y est toujours pas. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils pouvaient imaginer.
Donc, ça veut dire que derrière toutes les alliances et tous les dialogues apparents qu'on voit, finalement, chaque pays, chaque État, un peu dans le secret, se prépare toujours un peu à la guerre en préparant son stock d'armes dans son petit coin.
Je dirais que quand on
Pardon, je vous provoque un peu, je fais exprès.
Je dirais que quand on veut la paix, on prépare la guerre. C'est un vieux dicton romain. Et ce dicton romain, il vaut pour la défense, mais à mon avis, il ne vaut pas pour l'attaque. Et quand on se lance dans une guerre en tant que, puissance attaquante, je pense qu'on est certain de sa supériorité technologique, sa supériorité matérielle, etc., soit, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'Israël est en train de vérifier que la supériorité technologique qu'ils ont ne suffit plus. Ils parlent maintenant, et ils le font, d'une opération terrestre au sud Liban. Les Américains en Iran parlent d'une opération terrestre en Iran. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas contrôler une guerre uniquement du ciel et uniquement par des missiles et uniquement par, la technologie, fût-elle la meilleure. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que la conquête du territoire est extrêmement importante. Et le territoire commande finalement beaucoup plus que ce que l'on imagine dans les états-majors.
Les attaques terrestres, elles pourraient s'étendre partout dans tous ces pays, dans toutes ces zones-là, selon vous ?
J'ai entendu dire que les États-Unis ont envisagé une opération amphibie depuis quelques jours. Est-ce qu'ils vont le faire ? Ça veut dire qu'on s'expose à des pertes humaines beaucoup plus conséquentes que quand on envoie des avions, c'est évident, ou donc quand on envoie des missiles. Je pense qu'à ce moment-là, les populations des États en cause commence à réfléchir et commence à se poser des questions sur les buts de guerre finaux. Et bien sûr, on veut la paix.
Et pour vous, le but, c'est quoi ?
Ben, on veut la paix. On veut éliminer la capacité pour l'Iran d'attaquer Israël avec la bombe atomique. Mais comment être sûr que ça va pouvoir être réalisé ? C'est là la difficulté. Et en fait, on s'aperçoit que la résilience du système politique iranien est plus forte que prévu.
Le temps passe, Bruno Gabellieri. Je voudrais quand même qu'on tourne nos yeux vers Jérusalem, puisque nous avançons aussi dans le temps du carême et que bientôt, nous fêterons les rameaux, puis la passion et la résurrection du Christ. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem aujourd'hui ?
Dans la dernière visioconférence à laquelle j'ai participé pour tous les délégués de l'œuvre d'Orient, on avait un correspondant à Jérusalem. La révélation pour moi, ça a été que, pour la première fois depuis des années, Jérusalem a été touchée par les missiles. C'était la première fois qu'il nous en a témoigné que des missiles sont tombés sur Jérusalem. Il nous a expliqué que, en fait, si l'Iran n'avait pas encore lancé de missiles sur Jérusalem, c'est qu'ils avaient peur de toucher la mosquée. Et que donc, ils ont pris le risque, cette fois-ci, d'envoyer des missiles sur Jérusalem au risque de toucher la mosquée d'Omar, et effectivement, qui est un des grands symboles de l'islam. Donc ça veut dire que l'Iran est quand même acculé à déployer, je dirais, des arguments de guerre qu'il n'avait pas utilisés jusqu'à présent et qui font bien penser que...
ils jouent peut-être leur dernière carte.
Ce qui me fait penser le contraire aujourd'hui, c'est que les bombardements sur Jérusalem ont cessé. Est-ce que c'est parce que le fameux dôme de fer israélien est plus efficace? Est-ce que c'est parce que les Américains ont réussi à neutraliser les bases de missiles plus que c'était prévu? J'ai pas d'informations précises là-dessus, mais on peut le supposer. Donc aujourd'hui, effectivement, le principal souci, je dirais, pour qu'on vive, la Semaine Sainte le mieux possible, c'est qu'on puisse ressortir en paix la nuit et le jour à Jérusalem. Alors là aussi, les sirènes retentissent moins. J'ai pas eu de contact avec Jérusalem depuis moins d'une semaine, donc je sais pas aujourd'hui où on en est. Mais j'ose espérer qu'effectivement, les chrétiens de Jérusalem vont pouvoir célébrer dignement la Pâque, comme nous le souhaitons tous.
Oui, parce que ça nous ébranle aussi, parce évidemment que c'est la terre du Christ, parce évidemment que c'est une terre sainte, évidemment, et de voir cette terre souffrir depuis des années. Mais là, vraiment, le conflit prend des proportions. Est-ce que d'abord, il y a déjà eu dans l'histoire des proportions telles que celles qu'on voit aujourd'hui?
Alors la déflagration, la conflagration aujourd'hui, elle est tellement grande que ça a toujours été plus limité historiquement. Ça a été plus limité en ce sens que la guerre des six jours, par exemple, que tout le monde a en mémoire, ben, c'était limité au territoire israélien. Là, aujourd'hui, on sent bien que les bases américaines et anglaises de Chypre ont été bombardées, les Émirats arabes unis ont été bombardés, Dubaï a été fermé à la circulation aérienne. On est dans une dimension géopolitique énorme. Quand on regardera une carte, une map monde ensemble, si vous le voulez, on va voir que les frontières du conflit ne s'arrêtent pas.
Il n'y a plus de frontières.
Et aujourd'hui, on n'est même pas capable de prédire si l'Iran n'est pas capable d'envoyer des missiles beaucoup plus loin. Ils l'ont menacé, ils l'ont dit. Il y a des missiles qui sont allés très loin. On ne s'y attendait pas du tout. Et aujourd'hui, on peut dire que dans toute la région, potentiellement, la Turquie, la Chypre, l'Égypte, toute la péninsule arabique, on ne parle pas du reste, bien sûr, côté Extrême-Orient, sont à destination des missiles iraniens. Et ça, c'est inquiétant.
Il n'y a pas de frontière à cette guerre, et donc ne mettons pas de frontière à nos prières. Non plus.
Et il faut prier pour la paix, absolument. Sinon, c'est, je dirais, une guerre mondiale qui se profile à l'horizon.
Merci beaucoup Bruno Gabellieri, vous qui êtes délégué pour l'œuvre d'Orient dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Merci pour ces clés de compréhension, il y aura encore beaucoup de choses à dire.
Oui.
Je vous propose quand même de revenir quand vous voulez sur les ondes de Radio Présence pour nous éclairer, pour qu'on arrive à vraiment mieux comprendre. Et puis en attendant, bien sûr, restez toujours unis par la prière.
Merci. Merci Anne-Rose.